Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le 8e congrès sur les hépatites vient de se terminer à Paris. L'occasion pour nous de faire le point sur les dernières avancées dans le traitement des hépatites B et C. Vous savez que ces maladies restent longtemps silencieuses, avec peu de symptômes au début, mais qui favorisent à terme les cancers du foie. 350 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B dans le monde. Pour l'hépatite C, c'est 170 millions. En ce qui concerne l'hépatite B, il existe un vaccin et des traitements, mais qui doivent être pris à vie le plus souvent. Pour l'hépatite C, c'est l'inverse. Pas de vaccin, mais une révolution cette année avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques qui vont permettre de guérir 90% des patients. Cependant, ces traitements sont chers, très chers, les rendant difficilement accessibles dans les pays en développement. On estime que 80% des malades à risque de complications se trouvent dans les pays où il y a le moins de moyens. Alors, on en parle avec le professeur Patrick Marcelin, qui est président de ce congrès, chef du service des pathologies de l'hôpital Beaujon à Clichy. Il préside la Fédération nationale des pôles de référence et réseau hépatite. Avec nous également Yann Mazins, qui est directeur de SOS Hépatite, et également le professeur Oudou Njoya, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Yaoundé au Cameroun. Il est responsable du laboratoire de recherche sur les hépatites virales à la faculté de médecine de l'université Yaoundé au Cameroun. Et si vous avez envie de nous appeler, de leur poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Professeur Patrick Marcelin, Yann Mazins et professeur Oudou Njoya, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là au lendemain de ce congrès. Professeur Patrick Marcelin, ce congrès a lieu tous les ans, c'est ça ?
Tous les ans, oui.
Et c'est un succès cette année, des gens qui viennent du monde entier, pas mal de médecins du continent africain d'ailleurs.
Oui, oui. 1300 participants qui sont des spécialistes du monde entier, 80 pays représentés, et qui viennent évidemment écouter les dernières connaissances en termes de traitement, de prise en charge des malades, afin d'échanger pour traiter le maximum de malades, de guérir le maximum de malades dans le monde.
Et c'est rare finalement, dans les pathologies dans le monde actuel, d'avoir une révolution aussi importante que celle de cette année en termes d'avancée scientifique.
Oui, essentiellement dans l'hépatite C. Virus donc découvert en 1989, et on peut considérer que les avancées ont été très rapides, se sont accélérées depuis quelques années, avec actuellement 90% de guérison, d'élimination du virus.
C'est-à-dire qu'on pourrait en venir à bout, c'est ça qu'on va voir au long de cette émission.
Voilà, on pourrait imaginer, c'est réaliste, l'éradication de l'hépatite C dans le monde.
J'ai donné les chiffres dans le monde. Professeur Oudou Njoya, quelle est la prévalence des hépatites B et C au Cameroun ? Quels sont les chiffres ?
Au Cameroun, d'après les chiffres actuellement à disposition, notamment ceux de l'OMS, nous sommes à 13% de prévalence moyenne d'hépatite virale C et de 10% de prévalence pour l'hépatite virale B. Étant entendu qu'il y a des variations, il y a des poches où on atteint 30%, comme dans l'extrême nord du Cameroun, il y a des villages particuliers qui ont une forte prévalence d'hépatite virale B, notamment chez les femmes enceintes.
Ce qui est énorme, si on compare avec la France, professeur Marcelin, en termes de pourcentage.
En France, on peut considérer que hépatite C et hépatite B, c'est environ 1%. Peut-être sous-estimé. On a des chiffres qui sont assez anciens et du fait de l'immigration, il est possible qu'on ait plus de 1%.
Mais donc des chiffres quand même en termes de pourcentage très différents. Comment on explique cette différence ?
Le Cameroun a une particularité en ce qui concerne l'hépatite virale, c'est qu'il se rapproche de celle de l'Égypte.
Qui est le pays au monde le plus touché.
Oui, qui est le pays le plus touché. Nous avons connu, avant les indépendances, c'est-à-dire avant 1960, des campagnes de vaccination de masse dans les régions en vue d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Dans ces campagnes de masse où très souvent, il n'y avait pas toutes les précautions connues aujourd'hui pour la sepsie et tout ça, et qui rapproche d'ailleurs de ce qu'on a connu en Égypte avec les campagnes de masse contre la schistosomiase. Donc, ce qui fait qu'au Cameroun, vous avez dans le profil de prévalence, avant 30 ans, on a très peu de patients qui en souffrent, mais au-delà de 50, on a subitement un pic. Donc, c'est qu'expliquerait donc qu'il y a eu un phénomène.
Qui correspond au pic de vaccination.
Voilà, qui expliquerait donc qu'il y a eu à un moment donné une infestation de masse. Quoi. Donc, très probablement, iatrogène en rapport avec ce que j'ai dit par rapport aux infections et aux vaccinations de masse.
Et très important à préciser, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de, le système de vaccination, justement, n'est pas le même avec des, en tout cas, quand c'est par vaccination par sang à usage unique.
C'est ce qu'on pouvait penser tout à l'heure, pratiquement parler de la, des nouvelles infections. On se pose la question maintenant, ceux de, maintenant qu'on voit qui ont moins de 50 ans, qui ont pourtant l'hépatite virale C, d'où viennent ces hépatites virales? C'est vrai que dans les pays en développement comme le nôtre, où on a encore des particularités en matière de transfusion sanguine, en matière de scarification, des soins corporels dans les différents centres, qui pourraient expliquer, mais qui n'expliquent pas tout pour l'instant.
Yann Mazin, justement, quels sont les moyens de transmission des hépatites B et C, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes?
Non, ce n'est pas les mêmes, et malheureusement, force est de constater qu'ils sont mal connus, et ça, c'est notre rôle, notamment SOS Hépatite, de faire en sorte que les modes de transmission soient connus par le plus grand nombre. Donc, hépatite B, transmission par voie sexuelle, mais beaucoup également transmission de la mère à l'enfant, et force est de constater que nous avons des outils, pour réduire considérablement cette transmission, et notre rôle aussi est de faire en sorte que les politiques s'en saisissent.
Donc, l'outil, c'est quoi? C'est la vaccination, justement?
C'est la vaccination, c'est aussi un traitement très rapide après la naissance. Donc un coût relativement faible, des outils qui existent, et la vaccination, malheureusement, n'est pas universelle, et nous portons cette demande auprès de l'ensemble des politiques en lien avec des associations partenaires, notamment africaines, pour que cette vaccination soit ouverte au plus grand nombre.
Donc l'hépatite B, donc, transmission sexuelle et de la mère à l'enfant.
Et beaucoup de la mère à l'enfant, j'insiste beaucoup sur ce point.
Pour l'hépatite C?
Alors hépatite C, c'est un peu plus différent. Hépatite C, c'est principalement par voie sanguine. Voilà, c'est une transmission qui se fait principalement par voie sanguine. Et donc c'est vrai que sur l'hépatite C, une différence majeure, c'est qu'il n'existe pas de vaccin. Il existe maintenant de nouveaux traitements. L'hépatite C, nous on incite fortement au dépistage. Qui est indispensable, mais qui n'est malheureusement pas mis en œuvre partout. Il existe aussi de nouveaux moyens de dépistage, notamment ce qu'on appelle des tests rapides, qui permettent d'aller au-devant des populations avec un coût moindre, qui est en forte diminution, pour ouvrir aussi le dépistage au plus grand nombre.
Ces tests de dépistage rapide, ils sont maintenant disponibles dans les associations, par exemple, ou pas?
Trop peu. On avance sur ce sujet, mais c'est aussi une volonté politique, des moyens qui doivent être mis en place pour pouvoir ouvrir le dépistage au plus grand.
Professeur Marcelin, quelle est l'évolution de ces hépatites B et C? Parce qu'en fait, c'est une maladie silencieuse pendant des années. Et c'est bien ça le problème, c'est bien ça qui pose le problème du dépistage.
Oui, c'est une maladie silencieuse et qui peut progresser vers les complications qui sont la cirrhose et le cancer du foie. Et ces complications peuvent survenir, sans symptômes, sans signes particuliers. Et malheureusement, chez les personnes dépistées actuellement, on voit beaucoup de patients, 20-30% des malades dépistés actuellement sont déjà au stade de cirrhose ou de cancer du foie. Donc évidemment, dépistage le plus précoce possible, puisque nous avons les moyens de guérir l'hépatite C, nous avons les moyens aussi de contrôler l'hépatite B et de prévenir la cirrhose et le cancer.
On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur cette question du dépistage et aussi qui dépister, quelles sont les personnes les plus à risque. Je voudrais qu'on revienne sur les traitements. On va particulièrement là parler de l'hépatite C, mais on reviendra aussi sur l'hépatite B parce qu'il y a aussi des avancées. Sur l'hépatite C, il y a donc de nouveaux traitements qui permettent de guérir aujourd'hui.
Oui. Alors là, c'était vraiment, les progrès considérables au cours des 2-3 dernières années, les combinaisons thérapeutiques avec des antiviraux, des médicaments donc qui se prennent péros, plus de d'injections, plus d'interférons,
c'est-à-dire en cachet, hein.
Voilà, en cachet, plus d'injections qui donnaient beaucoup d'effets secondaires avec l'interféron, et donc on peut considérer qu'avec les combinaisons antivirales actuelles, on a de l'ordre de 90% de guérison, c'est-à-dire d'éradication complète du virus.
On a longtemps parlé comme nouveau traitement là du sofosbuvir, mais en fait il y a plusieurs nouveaux traitements, il y en a pas qu'un.
Oui. Alors, on va peut-être pas entrer dans les détails parce qu'il y a évidemment de nombreux nouveaux antiviraux, mais essentiellement actuellement il y a deux combinaisons qui sont disponibles, mais malheureusement elles sont disponibles dans peu de pays. Et ces discussions qu'on a eues au cours de ce congrès, c'est l'accès au traitement. Mais ces combinaisons ont une efficacité à peu près équivalente. On est à 90% de guérison, comme on le disait, avec des traitements plus courts et des traitements très bien tolérés.
C'est ça, sur 12 semaines ?
12 semaines.
12 semaines et très bien tolérés, pas d'effets secondaires comme avec l'interféron, c'était ça.
Voilà.
Hein,
et c'est une révolution.
On va voir justement avec les auditeurs qui ont beaucoup de questions à vous poser dans ce domaine.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons des hépatites B et C à l'occasion du congrès qui vient de se dérouler à Paris, lundi et mardi. On a Agnovi qui nous appelle de Lomé au Togo. Agnovi, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous êtes, je crois, président de l'association Sauvons l'Afrique des hépatites. On vous écoute.
Oui, je suis le président de l'association Sauvons l'Afrique des hépatites. Et nous travaillons depuis 5 ans sur les hépatites au Togo. Et avec, en coordination avec les amis des autres associations de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'aimerais poser une question au professeur. Mon parrain a été admis au CHU en Tunis. On l'a proposé une trithérapie avec Sauvis-Pur. Maintenant, nous avons donné les 30 millions. Et jusqu'à présent, on nous dit toujours d'attendre. Donc, j'aimerais savoir sur quelle base se fait le traitement de l'hépatite B. Est-ce que, ou sinon...
C'est l'hépatite B ou c'est l'hépatite C pour votre parrain?
C'est l'hépatite C, le génome.
L'hépatite C, c'est ça.
Est-ce que c'est sélectionnable ou bien comment?
Voilà, et où en est-on de l'arrivée de génériques d'ailleurs sur ces traitements-là et où est-ce qu'ils sont disponibles? On va peut-être commencer avec vous, professeur Marcelin. D'abord, en France, on avait ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation. Aujourd'hui, on a une autorisation, une mise sur le marché plus large, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais on réserve actuellement les traitements aux malades les plus graves. Puisqu'évidemment on peut pas traiter tous les patients en même temps, je vous rappelle qu'il y a en France 100 000 patients au moins à traiter et 100 000 patients à dépister, donc il y a beaucoup de travail et donc le traitement se concentre actuellement sur les patients les plus sévères avec une cirrhose ou une pré-cirrhose. Donc ces patients-là sont traités en priorité.
Ça a démarré.
Il y a déjà de nombreux patients qui ont été traités. Ce sont les patients dont je vous parlais avec des combinaisons d'antiviraux qui permettent d'obtenir alors un peu moins de réponses chez les patients au stade de cirrhose, malheureusement. Mais on obtient des taux très élevés de réponse, de l'ordre de 80%.
Comment ça se passe concrètement dans vos services? Il y a une affluence pour l'instant du patient d'un seul coup qui veulent être traités?
C'est vraiment le problème actuel. Ce n'est plus l'efficacité, ce n'est plus la tolérance, hein, puisque les traitements sont très bien tolérés, très efficaces. Le problème, c'est l'accès au traitement. Alors, difficulté d'accès au traitement, comme on l'a dit, les traitements sont actuellement limités aux malades les plus graves. Et pourquoi ne pas traiter plus tôt? Les malades
pour, éviter,
graves, pour éviter justement qu'ils progressent vers des formes plus sévères. Et puis, le problème d'accès pratique, c'est le nombre, les moyens qu'on peut investir pour que les patients soient vus en consultation, soient pris en charge, surveillés et traités.
Yann Mazin, justement, vous qui dirigez SOS Hépatite, j'imagine que vous avez de nombreux patients qui vous appellent en disant « mais moi, j'arrive pas à avoir un rendez-vous rapidement, qui je dois aller voir, c'est ça ?»
Oui, tout à fait, c'est encore le cas. Sur ce point, on a assisté à une grosse mobilisation associative sur la question du prix des traitements contre l'hépatite C. Effectivement, la question principale maintenant, c'est l'accès, hein, y compris dans les pays à revenus élevés, mais également dans l'ensemble des pays. Nous, on estime que seul, concernant le prix, ce n'est pas le seul problème, mais concernant le prix, c'est seul l'arrivée de génériques pourra permettre de faire abaisser les coûts à un prix satisfaisant. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui se mettent en place. Mais c'est une C'est vraiment la question principale quand on regarde le coût des traitements VIH. Ils ont baissé de 90% en une décennie avec l'arrivée des génériques.
Donc là, on ne devrait pas attendre 10 ans pour la sortie de génériques. C'est ça qui est en train de se négocier, non?
On ne devrait pas attendre 10 ans, peut-être. Après, il faut aussi prendre en compte les réalités de terrain. C'est qu'on a beaucoup aussi de pays qui n'ont pas la capacité, en termes d'organisation du système, de prendre en charge un nombre important de personnes sous traitement. Donc c'est une réalité aussi qu'il faut tenir compte.
C'est ça, j'avais envie de vous demander, professeur Odunjoya, vous êtes combien d'hépatogastro-entérologues au Cameroun?
Au Cameroun, nous sommes pour l'instant une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine seulement, malheureusement concentrés dans deux villes, Douala et Yaoundé, deux autres un peu, un dans le sud-ouest, un dans le nord. Donc effectivement, ça fait pas assez de médecins pour couvrir toutes les demandes, mais l'organisation est assez bien faite quand même pour l'instant, parce qu'on a quand même 6 centres de traitement de prise en charge dans les deux villes. Donc généralement les patients sont soit référés par les médecins généralistes ou alors viennent d'eux-mêmes en primum pour une consultation spécialisée.
Ces nouveaux traitements, ces nouveaux antiviraux à action directe, est-ce qu'ils sont disponibles au Cameroun aujourd'hui?
Pas encore pour l'instant. L'état du Cameroun est en négociation avec les firmes pharmaceutiques en vue de les faire rentrer au Cameroun d'abord à coût réduit et puis surtout pour permettre le traitement d'un plus grand nombre. C'est vrai que pour l'instant, quelques personnes arrivent à se soigner par des moyens personnels, hein, mais il faut reconnaître plutôt que la majorité est encore sur le banc de touche, c'est-à-dire qu'elle est laissée sur le bas côté parce que n'ayant pas les moyens de se traiter.
Et c'est pour ça qu'on a l'exemple de ce que nous racontait Agnovi, qui est en ligne avec nous, là, de l'Homéotogo, c'est que les gens sont obligés de partir pour l'instant, par exemple, en Tunisie, au Maroc, où le traitement est disponible, c'est ça ce qui se passe?
Oui, mais au Cameroun, quand même, pour l'instant, les efforts de l'État ont permis d'avoir les médicaments sur place. C'est plutôt un point de pouvoir d'achat de toutes les personnes malades.
Mais donc ces nouveaux traitements, c'est ça que je vous demandais, par exemple le sofosbuvir, il est disponible au Cameroun?
Pas encore, on est en négociation justement pour qu'il puisse rentrer au Cameroun. L'État du Cameroun est en négociation avec les firmes pour obtenir auprès des génériqueurs une entrée au Cameroun à coût réduit.
Mais justement, c'est ça que je cherche à comprendre. Vous négociez avec les laboratoires comme par exemple Gilead en l'occurrence, ou ça va passer par des génériqueurs indiens? On en est où de cette négociation pour l'Afrique?
Pour l'instant, disons que le propriétaire de la molécule, je pense que c'est Gilead pour l'instant, si je m'abuse, mais le génériqueur peut travailler pour le compte de Gilead et rabaisser les prix.
Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Yann Mazin?
C'est ce qu'on appelle la licence volontaire, et donc du coup c'est une volonté du laboratoire, donc en l'occurrence Gilead pour le sofosbuvir, de contractualiser avec des génériqueurs pour la production à coût réduit. Mais force est de constater que dans nombre de pays, ce coût réduit n'est toujours pas, est toujours trop élevé pour faciliter l'accès.
C'est ça. Et donc ça expliquerait, pour continuer à répondre à Agnovi, que le traitement ne soit pas forcément encore disponible, même en Tunisie. Et c'est pour ça que son oncle ne peut pas l'avoir. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre
à ça. Si, je pense qu'il a. On comprend sa peine, de M. Agnovic, justement. Ils ont réussi à avoir l'argent, mais malgré le fait qu'ils aient eu l'argent, le pays n'ayant pas encore donné l'AMM à.
L'autorisation de mise sur le marché
pour cette molécule. Donc, en Tunisie, peut-être qu'ils sont encore en attente d'avoir cette autorisation.
Professeur Marcelin, on l'a dit tout à l'heure, finalement, il y a un grand nombre de patients qui arrivent vers vous pour avoir ce nouveau traitement en France. Est-ce que même en France, là, vous n'êtes pas tout à fait assez nombreux pour répondre à la demande?
Oui, tout à fait. On a, bien sûr, sur la chance d'avoir la possibilité de l'accès à ces médicaments, mais je dirais que la difficulté d'accès est liée essentiellement au manque de moyens. C'est-à-dire on a des traitements beaucoup plus efficaces, on est capable de guérir 80 à 90% des malades, mais on n'a pas le personnel, on n'a pas d'augmentation de moyens qui permettent d'avoir plus de consultations, d'avoir du personnel paramédical. Il faut des équipes pour traiter ce type de maladie, et malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas plus de moyens. Donc il y a une espèce de paradoxe, des traitements beaucoup plus efficaces, beaucoup de malades à traiter, une forte demande, beaucoup de patients qui nous appellent et qui attendent le traitement, et nous n'avons pas les moyens de les traiter.
Agnovi, juste une dernière question, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations de lutte contre les hépatites en Afrique ou ailleurs?
Oui, et actuellement je suis le vice-président de l'association panafricaine de lutte contre les hépatites.
Donc vous dialoguez effectivement avec d'autres associations, on vous mettra en lien aussi après cette émission avec SOS Hépatite. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler des hépatites C et B.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites à l'occasion du 8e congrès sur les hépatites qui vient de se dérouler à Paris. On en parle avec le professeur Patrick Marcelin, qui a été justement l'organisateur de ce congrès. Il est chef du service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon à Clichy. Également avec nous, Yann Mazins, qui est directeur de SOS Hépatite, et le professeur Oudou Njoya, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Yaoundé au Cameroun. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 20 22 75 75. Professeur Patrick Marcelin, dans la première partie de l'émission, on a très longuement parlé de l'hépatite C, sur lequel il y a un nouveau traitement, de grands espoirs. Ne pas confondre avec l'hépatite B, où il y a des traitements mais qui ne permettent pas encore de guérir.
Oui, alors dans l'hépatite B, les traitements permettent de stabiliser la maladie, d'arrêter l'évolution, et même faire régresser ce qu'on appelle la fibrose, c'est-à-dire la cicatrice qui entraîne progressivement la cirrhose et le cancer du foie. Donc également des traitements très efficaces, 80-90% de rémission, je dirais. Pas de guérison, puisque le virus reste toujours présent dans le foie en petite quantité, même sous traitement, mais...
Ça veut dire qu'il faut continuer le traitement à vie, c'est ça?
Voilà, dans la plupart des cas. Mais cette stabilisation, encore une fois, permet d'éviter les complications.
Je voulais justement vous faire part du message de Basri qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il nous dit, moi je suis porteur de l'hépatite B depuis 1992, on m'a mis sous tenofovir il y a 2 ans, je suis le traitement quotidiennement mais il me coûte cher. Toujours un problème effectivement d'accès au traitement et par ailleurs j'ai même pas l'argent pour les examens de contrôle. Ce sont des traitements qui ne sont justement, professeur Oudou Njoya, pas pris en charge par un système comme le Fonds mondial. Sur le sida, il y a des traitements gratuits. Si on a sida hépatite, si j'ai bien compris, c'est aussi pris en charge gratuitement. Mais si on a la malchance d'avoir l'hépatite seule, c'est ça, on se fait pas soigner.
Malheureusement, pour l'instant, non, pas prise en charge par le Fonds mondial, mais certains pays ont fait des efforts pour mettre à disposition les médicaments comme le tenofovir, sur le cas du Cameroun par exemple, ou pour les patients mono-infectés, c'est-à-dire sans co-infection avec le VIH, ils ont accès au tenofovir à un coût réduit pour l'instant quand même. Disons que pour l'instant...
Le coût réduit, c'est combien par mois?
Au Cameroun, par mois, on peut se traiter à moins de 10 000 francs, même à 5 000 francs par mois, on peut avoir...
5 000 francs CFA.
Oui.
Donc ça fait à peu près 10 euros, c'est ça?
À peu près 10 euros de traitement mensuel pour le tenofovir actuellement disponible. Mais comme il le dit si bien, dans la plupart des pays africains, ce programme n'est pas encore mis en place. Donc on l'a mis en place à côté, bien sûr, du programme VIH, c'est-à-dire que ces médicaments ne font pas partie du médical de la prise en charge du VIH-SIDA.
Yann Mazins, c'est très bien toutes ces avancées dans l'hépatite C, mais vous avez aussi envie d'insister sur l'hépatite B, justement pour qu'on avance en termes de recherche et de traitement.
Qu'on avance en termes de recherche et de traitement, mais qu'on avance aussi sur l'existant. Force est de constater que l'existant, les outils que nous avons à disposition sont quand même insuffisamment utilisés. Donc, vaccination contre l'hépatite B, on insiste beaucoup, c'est la parole qu'on porte. Cet outil est très efficace et est sous-utilisé. Donc ça, c'est le premier message. Deux, notamment pour les pays, notamment africains, c'est éviter les transmissions aux mères-enfants. C'est la principale cause de contamination. Et on voit, on a eu des avancées énormes dans le cadre du VIH sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et on doit avancer sur l'hépatite B. Et également sécuriser les accouchements. Donc, et derrière ça, nous poussons aussi pour avancer sur les stratégies de dépistage. On a des outils qui sont à notre disposition qu'il faut développer.
C'est ça. Dont vous avez parlé au début de l'émission, ce sont ces tests de dépistage rapide,
d'orientation au diagnostic rapide.
Voilà, c'est ça, les TROD.
Les TROD.
Et alors justement, est-ce qu'ils sont de plus en plus disponibles dans le monde associatif? C'est-à-dire que ce serait pas forcément la peine qu'ils soient simplement dans des centres de santé? Ça peut être un peu...
L'idée, c'est de démédicaliser cette approche,
ce dépistage,
et permettre notamment à des associations à base communautaire d'être au plus proche des personnes pour pouvoir offrir ce dispositif.
Professeur Oudounjoya, on en est où de la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B au Cameroun?
Alors pour l'instant, le programme élargi de vaccination n'a introduit la vaccination contre l'hépatite virale B qu'à 6 semaines de vie, ce qui pose un problème. Donc pour l'instant, donc, nous nous battons pour que cela soit ramené au jour même de la naissance.
C'est ça, ce qu'il faudrait faire, c'est vacciner le jour de l'accouchement.
Oui, bien évidemment. Ce n'est pas risque zéro. Il faut déjà s'assurer que la charge virale de la mère est suffisamment faible pour éviter la transmission de la mère à l'enfant. Et éduquer, pas les populations, mais surtout les personnels des salles d'accouchement pour la prévention de cette transmission mère-enfant. Nous lançons bientôt au CHU de Yaoundé un programme de formation pour justement préparer le personnel des maternités à ce que tous les accouchements soient le plus sécurisés possible. Parce qu'en fait, c'est le plus grand problème, comme disait M. Mazin tout à l'heure, la transmission mère-enfant est le plus grave risque de santé publique en matière de transmission d'hépatite virale, c'est en matière de prévention. D'ailleurs, même le premier élément déterminant de la prévention, la sécurisation de cet accouchement.
Le programme de vaccination qui prévoit la vaccination de l'hépatite B à 6 semaines est un programme, une vaccination gratuite. Qui est supporté par Gavi, c'est ça?
Qui est supporté, oui, par Gavi, au Cameroun particulièrement. Mais nous insistons sur le fait que cette fenêtre de 6 semaines expose à beaucoup de risques, surtout quand elle est née d'une mère séropositive à l'hépatite virale B.
Oui. J'ai du mal à comprendre justement ce soutien de Gavi à une vaccination à 6 semaines dans des pays avec un taux de prévalence d'hépatite B aussi élevé, alors qu'on sait qu'il faudrait que ce soit à l'accouchement. Vous n'arrivez pas là, vous, gastro-entérologue au Cameroun, à mener une bataille pour que ça change? Gavi soutient quelque chose qui certes est utile à long terme, mais pas suffisamment.
Pas seulement au Cameroun, d'ailleurs au plan africain, la déclaration de Dakar est en faveur d'une vaccination à la naissance et les chiffres à notre disposition montrent qu'on peut bien avoir cette vaccination en mono. À moins d'un dollar.
Alors pourquoi?
Question. Maintenant, il faut bien voir les raisons. Est-ce qu'il y a des raisons économiques ou pas? Parce que dans le traitement de 6 semaines, la vaccination à 6 semaines, c'est un vaccin, c'est une combinaison pentavalente.
Donc, il y a plusieurs vaccins, c'est ça que ça veut
vaccins,
dire?
Oui. Donc ça veut dire qu'on devrait se battre pour qu'on puisse avoir un vaccin unidose au moins disponible à la naissance. Pour l'instant, les mesures prises pour l'hémoglobine qu'on donne à la naissance, reste très élevé pour la plupart des populations. Parfois, ce n'est même pas disponible, même quand on a de l'argent. Donc, nous devons nous battre absolument, je compte d'ailleurs sur M. Marcelin pour ça aussi, faire des pressions pour avoir absolument ces médicaments, cette vaccination à la naissance. Et nos gouvernements sont sensibilisés sur le sujet et nous faisons aussi travaillons auprès de l'État camerounais pour avoir tous les moyens et les disponible à la négociation dans ce sens.
Professeur Marcelin, pour prévenir cette transmission de la mère en l'enfant de l'hépatite B, il faut donc vacciner à la naissance, mais il y a d'autres choses à faire au moment à la naissance, justement, pas simplement le vaccin?
Alors, évidemment, le vaccin doit être fait à la naissance, c'est une urgence. C'est une urgence puisqu'il faut éviter que le virus infecte le foie du nouveau-né dans les heures qui suivent la naissance, puisqu'on sait que la transmission se fait au moment de la naissance. Alors, il y a également un autre moyen, c'est de réduire la charge virale chez les femmes qui ont beaucoup de virus dans leur sang et qui donc, malgré la vaccination, peuvent transmettre, c'est une minorité probablement des cas de transmission, mais si la charge virale est trop élevée, il peut y avoir, malgré la vaccination, une transmission. Donc,
et là, je dirais, c'est la même histoire que pour le sida, il faut les mettre sous traitement pour faire baisser la charge virale.
Il faut les mettre sous traitement, pas trop tard pour que la charge virale ait le temps de diminuer. Il y a des études qui ont montré clairement que en donnant un traitement antiviral, dans les mois ou les semaines qui précèdent l'accouchement, on diminue ce risque, on fait disparaître ce risque de transmission de la mère à l'enfant. Donc on pourrait imaginer des stratégies qui concilient finalement à la fois le traitement des femmes à haut risque de transmission et puis la vaccination rapide, et on devrait contrôler une grande partie des hépatites chroniques B, puisqu'on sait que la transmission à la naissance de l'enfant s'accompagne d'un passage très élevé à l'hépatite chronique. C'est-à-dire que l'enfant n'ayant pas...
Ce sont les plus à risque, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'un enfant qui est contaminé à la naissance par le sang de sa mère, a un risque très élevé de passage à l'hépatite chronique et donc d'évoluer dans les années qui suivent vers une maladie cirrhose ou cancer du foie. Donc les malades qu'on voit à partir de 20-30 ans en Afrique, avec des maladies graves, ce sont des enfants qui n'ont pas été, qui ont été contaminés à la naissance. Et évidemment, c'est le moyen le plus efficace et sans doute le moins cher pour contrôler la maladie.
Professeur Marcelin, ça fait un petit moment que je vous entends dire ça. J'ai l'impression quand même que vous avez du mal à vous faire entendre sur quelque chose qui paraît simple, évident, pas si compliqué. Vous venez de le dire, $1 pour cette vaccination à la naissance. Comment on n'y arrive pas? Moi, je reste assez stupéfaite d'entendre ça maintenant depuis quand même plusieurs années.
Oui. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a en effet un manque de communication entre les médecins, et on l'a dit tout à l'heure, il y a peu finalement de médecins qui sont entendus dans les pays africains, mais je pense aussi en Asie ou en Amérique du Sud, même problème.
Le problème est le même. Hein.
Et on écoute, peut-être les politiques n'écoutent pas assez les médecins. On connaît les moyens, on en parle depuis plusieurs années, on connaît les moyens, on a les moyens de contrôler ces maladies, et en effet, on ne les utilise pas bien ou pas assez.
Et les associations, elles ont un rôle à jouer là-dessus, Yann Mazens. Les associations sur le sida, elles ont fait du ramdam pour obtenir. Est-ce que vous en faites autant, vous, sur les hépatites?
Alors, deux choses. Un, l'action des associations en termes d'information face à des épidémies qui sont quand même en grande partie silencieuse, et ça c'est vraiment 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 important. Il y a vraiment un vrai relais à faire, donc ça c'est une chose, et on insiste beaucoup sur ce travail que nous menons à côté du corps médical et en complément. Ça c'est une chose. Après, effectivement, en termes de plaidoyer et de plaidoyer politique, on a entendu ici des mots, il faut se battre, il faut favoriser l'accès, etc. Et ça, effectivement, les associations ont un rôle à jouer, et les associations se sont déjà largement mobilisées, notamment sur l'hépatite C, on espère que le feront également sur l'hépatite B, et qu'on pourra continuer, effectivement, pour ouvrir le dépistage et l'accès au traitement pour tous
le plus rapidement possible.
Plus rapidement possible.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des hépatites à l'occasion du 8e congrès sur les hépatites qui vient de se dérouler à Paris. On a Madame Tourette Djeneba qui nous appelle de Bamako au Mali. Et Madame Tourette Djeneba, bonjour.
Bonjour madame.
Ça fait un moment que vous attendez pour nous parler, donc on vous écoute.
Oui, je voulais tout simplement dire que le nouveau médicament contre l'hépatite C est une utopie pour nous en général en Afrique, et particulièrement au Mali, où l'hépatite B, qui est la plus répandue, n'est pas prise en compte dans le système de santé. En dehors du dépistage sur les poches de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine et de la vaccination dans le Père, aucune disposition n'est prise contre les hépatites en République du Mali. Et pourtant, un projet de programme a été élaboré par SOS Hépatite Mali et la SOMAD en 2011 et déposé au niveau du ministère de la Santé, et nous attendons toujours. Dans un pays où l'hépatite B sévit environ à 20% de la population générale, je crois qu'il faut en urgence faire un programme de lutte contre les hépatites, en général. D'autre part, l'OMS avait promis, avec l'avènement de la vaccination, avait promis une vaccination généralisée pour 2012, et nous sommes en 2015, qu'en est-il? Dans les hôpitaux, 66% des cancers de foie sont dus à l'hépatite B. 71% des cirrhoses sont dus à l'hépatite B. Et je ne pense pas qu'on puisse croiser les bras et qu'on ne puisse pas bénéficier de la générosité et de la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est pourquoi je dis que c'est une utopie dans la mesure où l'hépatite B qui est répandue partout en Afrique, généralement et particulièrement chez nous au Mali, dont les jeunes, 54,6% des jeunes sont déjà en contact avec le virus de l'hépatite B, ce qui compromet dangereusement l'avenir de notre pays, qu'on ne puisse pas prendre des dispositions.
Et alors justement,
qu'on ne puisse pas bénéficier.
Ouais.
De la générosité des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud.
Je voudrais vous poser
parce
des questions
que je me rends compte que pratiquement en Afrique, il y a beaucoup de pays qui bénéficient déjà des programmes de lutte contre les hépatites.
Et vous, il n'y en a pas au Mali?
On n'en a pas au Mali.
Et au Mali, pour ce qui est de la vaccination contre l'hépatite B, à quel moment est faite cette vaccination? Est-ce que c'est la même chose que ce que vient de nous dire le professeur Oudoun Joya au Cameroun, c'est-à-dire que la vaccination a lieu à 6 semaines?
La vaccination n'est pas... c'est uniquement au niveau du PEV.
Du programme élargi de vaccination.
Au niveau du PEV, ça donne une fausse assurance. Parce que si la mère est infectée déjà pendant la grossesse, elle transmet à son enfant dans les 43,3% à son bébé de la naissance.
Donc même problème, risque de transmission de la mère à l'enfant. Je voudrais parler des traitements actuellement existants, que ce soit l'interféron ou la ribavirine. Est-ce qu'elle est disponible au Mali, mais surtout je dirais à quel coût?
Elle existe dans une seule pharmacie, l'interféron et la ribavirine existent dans une seule pharmacie et le traitement de 12 mois coûte 13 000 euros.
Oui. Donc 120. Totalement.
9 millions, sans compter les examens complémentaires pour pouvoir suivre l'évolution de la maladie.
Donc absolument inaccessible pour les Maliens. Professeur Marcelin, je voudrais savoir, vous avez évoqué ces questions pendant ce congrès qui s'est déroulé pendant 2 jours à Paris sur la question du coût dans les pays du Sud. Vous l'avez dit, hein, il y avait plusieurs hépatogastro-entérologues du continent africain et pas que.
Oui.
Vous avez évoqué ces questions.
Oui, d'ailleurs, c'est le concept de ce congrès, c'est justement de donner la parole aux pays où il y a le plus grand nombre de malades atteints d'hépatite C et d'hépatite B. Et comme on l'a dit, finalement, ce sont les pays qui ont le plus de difficultés en termes de finances, en termes de moyens, qui ont les plus grands nombres de malades. Donc on a parlé longuement pendant ce congrès des problèmes d'accès au traitement. Hein, comme on l'a dit, on a les armes, on a les moyens pour contrôler l'hépatite B, pour prévenir l'hépatite B, on a parlé de la transmission mère-enfant, on a les moyens de guérir l'hépatite C, et il y a une espèce de scandale, finalement, c'est que on a les armes, mais on ne les utilise pas dans les pays où on en a besoin.
Et tout le monde est un peu responsable là-dessus, parce qu'il y a certes l'industrie pharmaceutique avec le coût, mais pas que. Quand on voit que le vaccin n'est pas disponible au bon moment à la naissance, il y a aussi une part de responsabilité de la communauté internationale, des gouvernements locaux aussi.
Oui, il y a, je pense, d'une part, comme on l'a dit, sans doute un manque d'information du public et aussi, bien sûr, de l'ensemble du monde médical sur les hépatites. Les hépatites sont des maladies mal connues, mal traitées, finalement, alors qu'elles sont très fréquentes, et peut-être un manque de prise de conscience et en tout cas d'action des politiques, des pouvoirs politiques. On a des possibilités d'action très efficaces, sans doute avec en utilisant déjà les ressources que nous avons actuellement, on peut faire mieux.
On a le docteur Gourianba qui nous appelle du Burkina Faso. Docteur Gourianba, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, je crois que vous êtes médecin du travail.
Ah, je suis dans le domaine du travail.
On vous écoute.
Oui, j'avais déjà formulé ma question il y a longtemps, mais dans mon groupe particulier, nous recevons beaucoup de patients.
Alors, docteur Gourianba, la ligne téléphonique est vraiment pas très bonne, donc il faut que vous parliez. Oui, ça arrive assez souvent, vous le savez. Donc parlez bien fort, bien près du téléphone en articulant pour qu'on vous comprenne bien.
Ok, je disais, ma question c'était le traitement de l'hépatite C. Et la co-infection par rapport au VIH. J'ai posé la question à savoir, est-ce que la co-infection par rapport au VIH modifie-t-elle le traitement? Et au cas où la vaccination, par rapport à la vaccination, pour une personne portant le virus, faut-il lui faire encore la vaccination ou bien ce n'est pas conseillé?
Alors, deux questions, effectivement. D'abord, en cas de co-infection VIH et hépatite B, est-ce que ça modifie le traitement, professeur Marcelin?
Non, on peut utiliser ces médicaments avec le traitement anti-VIH, donc le traitement anti-hépatite B ou anti-hépatite C est compatible avec le traitement contre le VIH, et même dans l'hépatite B, certains médicaments sont à la fois efficaces sur l'hépatite B et le VIH, donc on peut être efficace sur deux maladies avec les mêmes médicaments.
Et le traitement est aussi efficace quand on est porteur du VIH-SIDA?
Le traitement est de plus en plus efficace. C'est vrai que les anciens traitements étaient moins efficaces, mais maintenant, du fait de traitements mieux adaptés, plus efficaces en général, on arrive à avoir de très bons résultats également dans les hépatites chez les patients VIH positifs.
Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut encore vacciner quand on est déjà porteur de l'hépatite B ou ça n'a pas de sens?
On peut être vacciné, bien sûr, puisque ce sont généralement des patients à risque de transmission de l'hépatite, hein, de l'hépatite B ou de l'hépatite C.
Oui, quand on a déjà, parce que j'avais compris dans la question du docteur Gourianba, que quand on est déjà porteur de l'hépatite B, se faire vacciner contre l'hépatite B
n'a pas d'intérêt.
N'a pas d'intérêt, c'est ça.
N'a pas d'efficacité. Non, mais par contre, bien sûr, si on est VIH positif et que on n'a pas de marqueur de l'hépatite B, on n'a pas été contaminé dans le passé, la vaccination est évidemment obligatoire comme dans tous les groupes à risque.
Merci beaucoup, docteur Gourianba. Je voudrais qu'on revienne à la question du dépistage, Yann Mazens. Qui doit être dépisté en priorité? Parce que est-ce qu'on dit quoi? On dit à tout le monde qu'il faut aller se faire dépister aujourd'hui?
De quoi parle-t-on? Hépatite B ou hépatite C? Je crois qu'il faut être vigilant sur ce point. Hépatite, on va parler d'hépatite C. Hépatite C, on voit désormais, alors avec des nuances selon les pays, et mes collègues vont compléter, que la stratégie de dépistage doit être élargie. En fait, on n'est plus vraiment uniquement sur des populations considérées comme avec des pratiques à risque. Et donc, il faut élargir le dépistage à l'ensemble de la population.
Donc, le conseil, c'est quoi? C'est de dire à tout le monde, faites-vous dépister aujourd'hui?
Selon les endroits et selon ce qui est disponible, selon les outils qui sont disponibles, il faut être à chaque fois, il faut quand même être très très vigilant sur les moyens qui sont mis en place. Nous, la parole qu'on porte effectivement, c'est que au moins chacun une fois, chaque personne une fois dans sa vie puisse faire un test de dépistage VHC contre l'hépatite C. L'hépatite C, c'est la maladie de monsieur et madame tout le monde et ça serait une erreur de penser le contraire.
Pour l'hépatite B?
Alors pour l'hépatite B, on une stratégie universelle de dépistage et de vaccination.
Professeur Oudou Njoya, qu'est-ce que vous dites au Cameroun là-dessus en termes de dépistage? C'est toujours très compliqué d'aller dire aux gens de se faire dépister quand les traitements sont pas accessibles.
Tout à fait, parce que là il y a une approche éthique qu'il faut tenir en compte, parce que comme on le dit aujourd'hui, vous dépistez pourquoi? Vous dépistez pour telle raison, pour quelle finalité? Donc en fait, s'il faut faire un dépistage de masse, il faut être capable de prendre en charge les patients qui seront positifs par la suite. Ou alors, ceux qui sont dépistés personnellement, on a moins de responsabilité vis-à-vis d'eux. Mais il faut tenir compte du fait que le fait d'être dépisté en dehors des campagnes de masse permet au moins de savoir se connaître son état et de prendre à disposition de transmission éventuellement pour la femme enceinte.
Alors c'est ça. Est-ce que le conseil, en tout cas pour les femmes enceintes, c'est qu'elles se fassent toutes dépister?
Il faudrait systématiquement dans les bilans d'accouchement pour toute femme enceinte avoir été dépistée contre l'hépatite virale B et éventuellement prendre à disposition pour baisser la charge virale si se trouve que la femme est à risque de transmettre le virus à son enfant.
Mais ce test de dépistage de l'hépatite B, est-ce qu'il coûte cher?
Et il coûte cher. Et, enfin, il coûte ce qu'il coûte. Disons qu'au Cameroun, par exemple, et en Afrique de manière générale, ce test est d'à peu près 8000 francs CFA. Ça fait à peu près plus de 10 euros. Hein, plus de
11, 10 euros.
12 euros à faire. Donc,
est-ce que c'est recommandé de façon systématique dans le programme, justement, disons, des consultations prénatales?
Oui, depuis quelques temps maintenant, nous avons conseillé à nos collègues gynécologues et autres de le faire systématiquement pour les femmes qui sont enceintes. Et même d'ailleurs, dans les dispensaires de consultation prénatale.
On arrive à la fin de cette émission, professeur Oudoun Djoya. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message?
Écoutez, le premier message qu'on devrait faire passer, c'est cette importance de prendre en charge les maladies et surtout qu'on évite la barrière nord-sud qui fait que les moyens sont au nord et les patients sont au sud. Donc il faut bien qu'on voit ce qu'on peut faire en la matière et puis aussi tenir compte du fait que la recherche devrait avoir assez de place, de plus en plus de place dans les pays du sud pour avoir beaucoup d'éléments sur le plan épidémiologique, surtout sur les transmissions de la maladie.
Yann Mazin, en quelques mots, un mot de conclusion.
Oui, on parle de progrès thérapeutique, on en parle beaucoup. Nous, on estime qu'ils n'ont du sens que s'ils sont partagés par tous. Donc, c'est vraiment dans une logique globale, nord-sud, qu'il faut avancer. Et je répète mon message sur la vaccination, notamment contre l'hépatite B.
Absolument. Faites-vous vacciner, c'est important. Professeur Marcelin, un mot de conclusion.
Oui, je pense qu'il faut d'abord dépister. Il vaut mieux savoir si on a l'hépatite B ou l'hépatite C, parce que en dehors du traitement, il y a aussi la possibilité d'éviter la transmission et de donner des conseils, hein, éviter l'alcool, éviter de prendre du poids, etc. Donc, le dépistage universel, pourquoi ne pas faire une fois dans sa vie la recherche de l'hépatite B et la recherche de l'hépatite C? Et le deuxième message, évidemment, on en a parlé, c'est qu'on travaille tous ensemble pour l'accès au traitement, aux malades qui en ont besoin.
Dans les pays du Sud. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Et demain, on parlera des traumatismes du chômage. On attend vos questions. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé.